Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lundi 25 mars, la pièce d'Eschyle Les Suppliantes, montée par la compagnie Démodocos et programmée dans l'amphithéâtre Richelieu à la Sorbonne, a été censurée. Elle a été censurée par une cinquantaine de militants de la Ligue de défense noire africaine, ou LDNA, alliés à la brigade anti-négrophobie et au conseil représentatif des associations noires, le CRAN, qui accusait la mise en scène de racisme. Motif, la pièce met en scène le peuple des Danaïdes venus d'Égypte et de Libye pour demander asile aux Grecs, si bien que les acteurs, pour représenter les Danaïdes, ont couvert leur visage d'un maquillage foncé par-dessus lequel ils se sont couverts de masques cuivrés, comme cela se faisait dans la Grèce antique. Les militants ont aussitôt crié au blackface, du nom de ce genre de théâtre à l'américain du 19e siècle où les acteurs blancs se maquillaient pour caricaturer les noirs, et ils ont décidé d'intervenir pour empêcher la représentation. C'est un procès d'intention et un contresens total, a aussitôt dénoncé la présidence de l'université. Une partie de la troupe a été séquestrée par des excités venus là pour en découdre, a accusé de son côté le metteur en scène et directeur de la compagnie Philippe Brunet, qui dénonce par ailleurs des pressions physiques de la part des militants de la Ligue de défense noire et du CRAN sur des actrices en larmes et qui envisage de porter plainte. 9 mois après les débats provoqués notamment dans cette émission par les attaques contre la pièce du Canadien Robert Lepage Canada, accusé de racisme, voici que la polémique fait retour sur un nouveau cas de censure et de violence au théâtre. Louis-Georges Thin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été président du CRAN pendant 2 ans, vous êtes aujourd'hui président d'honneur du CRAN.
Pendant
6 ans, pardon. Et vous êtes aujourd'hui président d'honneur du CRAN. Vous avez aussi en 2005, vous êtes le fondateur de la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie en 2005. Et en 2011, vous avez été classé par Têtu comme une des 25 personnalités de l'année, c'est ça? Isabelle Barberis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agrégée de lettres modernes. Vous avez été élève de l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. Vous êtes maître de conférences en art du spectacle à l'Université Paris-Diderot et chercheuse associée au CNRS. Et vous publiez en ce moment l'art du politiquement correct au PUF.
Tout à fait.
Georges Sidéris, bonjour. Vous êtes maître de conférences d'histoire byzantine à la Sorbonne, spécialiste de l'histoire du genre, et non pas des genres. Et vous avez publié dans Libération une chronique, non pas en soutien à l'interdiction de la pièce ou à la censure de la pièce, mais en tout cas un soutien au CRAN et aux militants. Pourquoi d'ailleurs? Parce que si vous n'avez pas soutenu l'interdiction de la pièce, vous avez soutenu quoi alors?
Les étudiants.
Vous avez soutenu les étudiants,
oui.
Qui ont manifesté contre la pièce.
Oui.
Et enfin, Tania de Montaigne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et journaliste, on vous connaît, vous avez fait de la radio, vous avez fait de la télé, et vous publiez pas mal de livres, dont Noir en 2015, qui est un récit inspiré de la vie de la militante pour les droits civiques Claudette Colvin, qui est devenu un spectacle théâtral, qui va être repris, je crois, bientôt.
Oui, au Théâtre du Rond-Point.
Au Théâtre du Rond-Point. Vous avez également écrit l'année dernière « L'assignation, les Noirs n'existent pas », livre dans lequel vous vous insurgez contre le fait d'être assigné à une identité noire et plus généralement vous insurgez contre le communautarisme.
Nationalisme.
Et le nationalisme. Oui. Vous écrivez « Je ne suis pas constamment en train de penser à la couleur de ma peau. Le communautarisme consiste à dire que seuls les membres du groupe concerné auraient le droit d'énoncer qui ils sont. Or, je récuse cette réponse car elle implique que je ne peux pas être un être de culture. » Vous critiquez aussi la notion d'appropriation culturelle, c'est ça?
Oui, c'est un bon point de départ, voilà. On va dire.
Donc on va commencer tout de suite par une mise en condition, on va revenir sur ce qui s'est passé exactement et écouter les militants en question.
Oui, voilà, donc on tenait à remercier tout le monde encore une fois, une victoire ce soir. On est venu à la Sorbonne, on a bloqué les 3 entrées de la Sorbonne, on a réussi à faire annuler le spectacle ce soir. On est venu avec les frères de la Banne, ils sont juste à côté. Donc on tenait à remercier tout le monde, on tenait à remercier les étudiants qui ont contribué, qui nous ont alertés, qui ont participé à ce blocage pour dire non au blackface, stop au blackface. Donc ce théâtre n'a pas eu lieu ce soir, vous voyez. Donc voilà, c'est juste pour vous dire merci, pas de victoire sans combat.
Oui, donc regarde, il faut bien au début rejoindre les DNA et
on a réussi à faire annuler cette représentation raciste qui est le blackface. Ils n'ont pas forcément compris nos explications, mais la mort dans l'âme, ils ont été obligés d'annuler. Et donc c'est une bonne chose de pouvoir allier les forces entre collectifs et d'être efficace de cette façon-là. Et voilà, il faut que ça continue dans cette direction et qu'on ne laisse rien passer. Parce que, comme dit Gucci, comme il dit souvent, il n'y a pas de victoire sans combat.
Exact. Et ce voilà, soir, encore, le combat continue. En fusionnant nos forces, on a encore réussi à faire annuler.
C'est pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants, pour la libération de l'Afrique, tout est lié de toute façon.
C'est ça.
Donc pour notre communauté, il faut qu'on continue à combattre. Merci à vous.
Merci beaucoup. C'était la LDN.
Alors, Louis-Georges Jetin, on a réussi à faire annuler, ils ont été obligés d'annuler, la mort dans l'âme. Vous êtes d'accord avec ce type d'action ?
Alors, l'introduction qui a été faite est erronée à bien des égards.
Oui.
Alors, premièrement, le CRAN n'a pas participé à ce blocage. Monsieur Brunet le dit, c'est inexact, mensonger, je ne dirais pas diffamatoire, car le CRAN n'était pas là. Voilà. Donc, les autres associations dont vous parlez y étaient, mais le CRAN n'y était pas.
Alors, vous n'êtes pas d'accord avec l'action?
Alors, deuxièmement, nous n'y étions pas. Pourquoi? Parce que nous avons appelé au boycott. Et boycott et blocage sont des concepts très différents. Mm-hmm. Pour bloquer, il faut être là. Quand on boycotte, c'est qu'on n'y va pas. Et donc, nous n'y étions pas. Et je dis très clairement qu'il y a une différence entre les deux. Mm-hmm. Troisièmement, ce n'est pas Échille qui est critiqué, c'est la mise en scène de M. Brunet. Il faut faire une distinction entre la pièce et la mise en scène. Et effectivement, il y a un problème de blackface. Quatrième erreur de la présentation, excusez-moi. Ce n'est pas une pratique née aux États-Unis au XIXe siècle. C'est une pratique née en Europe au XVIIe siècle, à l'époque de l'esclavage, parce qu'il s'agissait de présenter les Noirs sous un jour ridicule ou diabolique. C'est un peu comme les caricatures antisémites. Et cela a organisé la fabrique du consentement au crime contre l'humanité. Donc il faut comprendre ce que c'est que le blackface, les déguisements raciaux. Et depuis un an, M. Brunet a été alerté sur ces maquillages qu'il utilisait par des étudiants de la Sorbonne. Ils l'ont interpellé, il n'a jamais voulu discuter. Nous-mêmes au CRAN, nous l'avons interpellé, il n'a jamais répondu. Et donc voilà un peu ce qui a amené à ce blocage, cette absence de dialogue que je regrette en effet. Mais c'est la mise en scène qui pose problème. Parce que même si son intention au départ n'était pas de recourir à cette pratique raciste, le fait qu'il ait été alerté et n'en ait pas tenu compte constitue évidemment un vrai problème.
Vous l'avez vu cette mise en scène ?
Alors, nous avons boycotté, donc nous n'avons pas été voir la mise en scène, mais nous avons toutes les illustrations. Les étudiants de la Sorbonne l'ont vu depuis un an, et effectivement, toutes les photos montrent les maquillages qu'il utilise.
Alors, juste avant de lancer le débat, j'ai parlé longuement avec Philippe Brunet, qui n'a pas voulu venir aujourd'hui, mais je vais quand même expliquer un peu quel est son travail, parce que c'est quand même important. Philippe Brunet est quelqu'un qui travaille depuis longtemps sur le théâtre antique, sur le théâtre grec en particulier. Il a fondé la compagnie théâtrale de Modokos en 95, et ses spectacles sont des adaptations des textes antiques grecs. Il a monté Le Retour d'Ulysse, il a monté Les Amours d'Arès et Aphrodite, il a travaillé avec Jean Rouch en 2002 dans un film de Jean Rouch qui s'appelle Le Rêve plus fort que la mort. La seconde partie du film est centrée sur le travail de Philippe Brunet, qui met en scène une autre pièce d'Achille dans le film Les Perses, laquelle est transposée par le sociologue et helléniste nigérian Djulde Laya au Centre culturel de la République du Niger. Et en 2006, enfin, Philippe Brunet a fondé le Festival de théâtre antique Dionysie, où les spectacles, lectures et chants et représentations théâtrales reposent sur des écritures rythmiques en traduction et aussi sur une mise en scène bilingue et surtout sur un jeu de masques associé à la danse qui essaye de reconstituer littéralement la manière dont les spectacles se montaient dans l'Antiquité grecque. D'où le recours à ces maquillages et à ces masques qui ne sont pas littéralement pas du blackface. Ce ne sont pas d'ailleurs des masques noirs. Il s'agit d'un maquillage sombre tel qu'il était pratiqué dans la Grèce antique et recouvert ensuite de masques qui ne sont pas noirs mais qui sont cuivrés. C'est une différence factuelle que je précise puisque justement personne n'a vu la pièce. Tania de Montaigne.
Sauf les étudiants de la Sorbonne.
Oui, enfin. Ouais. Tania de Montaigne.
En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, en fait, on est tous là pour parler d'un truc qu'on n'a pas vu.
Voilà.
Et c'est un peu ça que je trouve dommage, parce que moi, ça m'intéresse toujours de savoir et de voir. Et à partir de là, de pouvoir déterminer une action possible, une réflexion possible. En tout cas, ça m'intéresse toujours de pouvoir penser. Et là, ce qui pose problème dans cette action et puis d'autres qui avaient pu avoir lieu précédemment, c'est qu'en fait, on m'interdit de penser. Donc, on me dit des gens ont vu. Et donc, moi, je dois me baser sur des gens qui donc décident pour moi ce qui est bien pour moi. Et donc, on peut pas... On est du point de vue du ressenti de personnes que je connais pas, qui auraient vu un truc que j'ai pas vu et qui, du coup, m'obligeraient à me déterminer. Donc, par exemple, cette question, elle est fondamentale sur la question de savoir si c'est raciste ou si ça ne l'est pas. Mais on est obligé d'être dans une complexité quand on va regarder ça. Mmh. Parce que le problème, c'est que si on est du côté de l'affect, en fait, on va se retrouver très rapidement à plus du tout pouvoir rien produire. Et donc, la pensée n'avancera pas non plus. On est obligé de supporter que quelqu'un va proposer quelque chose, un regard, et que moi-même je vais poser mon regard là-dedans, et que après j'ai toute liberté de dire soit eh bien ça rentre dans un cadre légal et on va faire quelque chose pour que cette chose n'ait plus lieu, soit de supporter que bah non, malheureusement, mais je peux boycotter, je peux donner mon avis, je peux dire que j'irai pas, je peux ne pas acheter un livre, pas aller voir une pièce, et il faut que cette autonomie soit considérée, parce que en ce moment, là, par exemple, sur un travail que je fais, se pose cette question-là et on me dit « Ah oui, mais là, comme il y a une blanche, est-ce que la question de l'appropriation culturelle se pose ?» Donc, ça devient une blanche, en fait, c'est plus du tout une artiste qui ferait quelque chose. Et donc, on sort complètement de ce qui, pour moi, fait sens dans l'art, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une personne vient poser comme regard sur quelque chose.
Oui, d'ailleurs, Philippe Brunet, dans plusieurs de ses spectacles, a mis en scène une Athéna noire portant un masque blanc et le contraire en fonction des acteurs avec qui il joue, tout simplement. Hein.
Oui. Mais après, en plus, je trouve que c'est compliqué parce qu'une fois qu'on a mis le petit doigt dans cette, mécanique qui est complètement perverse, on se retrouve du coup avec un monsieur que je ne connais pas, qui est obligé de dire qu'il a des amis noirs, donc là on devient complètement délirant, et qu'il a déjà vu des noirs, qu'il en voit souvent et qu'il fait plein de trucs avec, ce qui n'est absolument pas le sujet. On s'en fout complètement de savoir qui sont ses amis, quoi.
Isabelle Marbaris.
Oui, moi, ce qui me met un petit peu mal à l'aise, c'est que l'on oblige Philippe Brunet à fournir des justifications torrentielles, extrêmement érudites, d'ailleurs sur lesquelles on pourrait discuter, parce que par exemple, lorsqu'il parle du masque grec n'est pas exactement la même chose que le maquillage esthétiquement véhicule beaucoup plus d'ambiguïté, et c'est aussi une des raisons qui permet de comprendre le malaise profond que suscite et la complexité du blackface, puisqu'il y a contact charnel des imaginaires, hein, des signes. Donc c'est de voir ces justifications qui, comme le disait Tania de Montaigne, aussi en viennent assez rapidement à des justifications morales parce qu'il sent qu'on lui fait un procès d'intention. Et donc tout cela contribue à un cadre beaucoup plus large que par ailleurs moi je déplore, qui est une forme de moralisation des arts, où on est prisonnier d'injonctions paradoxales, c'est-à-dire d'un côté on va avoir un cadre ministériel qui va insister sur l'importance de représenter la diversité, de ne pas invisibiliser, d'être extrêmement précautionneux quant à la aux distributions et à la présence physique d'acteurs de toutes origines, et de surtout de ne pas invisibiliser. Et de l'autre côté, lorsque l'on a de toute évidence, en tout cas si l'on en croit ses déclarations et aussi les images et ses choix de mise en scène, un metteur en scène qui choisit précisément de ne pas invisibiliser, on lui fait également un procès. Et il aurait fait l'inverse, c'est-à-dire il aurait choisi de laisser ses actrices blanches, de laisser apparaître leur couleur de peau. Dans ce cas, le régime du tribunal aurait quand même pu se mettre en place au nom de la color blindness, du whitewashing et compagnie. Et il faut aussi quand même préciser que tous ces mots, que ce soit blackface, color blindness, whitewashing, etc., sont des mots importés, ce qui participe à une forme de cacophonie extrêmement désagréable et violente. Par exemple, je ne suis pas d'accord avec Louis-Georges Thin lorsqu'il importe ce mot de blackface pour parler du 17e siècle européen. Il me semble que...
C'est pour ça d'ailleurs que je parle beaucoup plus de déguisements raciaux.
D'accord. Alors là, on est... Mais je pense que... On ne peut pas se contenter de demi-vérité ou de demi-exactitude. Quant au blackface aussi, j'ai vu apparaître sont toujours dans cette ambiance de moralisation, des déclarations extrêmement moralisatrices, parlant de pratiques sordides. Le blackface est une pratique qui a été violente, extrêmement douloureuse, qui renvoie à une histoire très douloureuse. Mais je ne pense pas, et c'est quand même, je renvoie, moi je trouve que l'article de Gérard Noiriel qu'il a fait à ce sujet est excellent. Hein. Il faut aussi continuer à accepter l'ambiguïté et ne pas la gommer, sinon on va aboutir à des représentations complètement manichéennes.
Juste une petite parenthèse, le déguisement raciaux du XVIIe siècle européen ne sont pas le blackface, on est d'accord. Donc ça n'a pas non plus exactement la même fonction, peut-être.
Si. Ah, si, précisément.
Mais bon, on va y revenir. Je vais d'abord donner la parole à Georges Sideris. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet article en soutien alors aux étudiants qui ont interdit la pièce, pas à l'interdiction?
Pas du tout. Pas les étudiants qui ont interdit. Les étudiants qui ont été indignés, ce qui est tout à fait différent. Je suis pour la liberté de création. Je suis pour la totale liberté de création. Je pense que cette pièce n'aurait pas dû être interdite. Au contraire, il fallait la voir. Et au contraire, j'ai très envie maintenant d'aller la voir. Et je suis entièrement d'accord avec Daniel de Montaigne. Maintenant, nous sommes une université, une grande université de lettres classiques. Est-ce que le texte d'Eschyle pose des problèmes? Oui, absolument. Je l'ai lu et relu en grec. Rien ne permet vraiment de trancher est-ce que les Danaïdes étaient noires ou pas. Le texte grec là-dessus est très clair. Il dit à deux reprises leur peau est brunie par le soleil. Et s'il y a soleil à côté, c'est parce que Eschyle a voulu bien indiquer cela. Donc on ne peut pas trancher. Donc à partir de ce moment-là, utiliser des masques ou un maquillage qui renvoie à la peau noire est le choix du metteur en scène. Il a le droit. Il a entièrement le droit. Et il a le droit de le décliner à sa façon. Évidemment, alors, bien entendu. Mais à ce moment-là, nous sommes dans une problématique contemporaine, représentation contemporaine.
Pardon, le metteur en scène dit qu'il reproduit la manière dont les Danaïdes étaient représentés sur la scène du théâtre à l'époque d'Eschyle ou après, en tout cas dans l'Antiquité grecque.
C'est pas dans le texte.
Ah, c'est pas... Il n'y a pas d'indication.
Je suis byzantiniste. Il faut savoir que la pièce des Danaïdes, on a failli ne jamais la voir. Jamais. Elle a été sauvée parce qu'au IXe siècle, le patriarche de Constantinople, Photios, l'a retrouvée au patriarcat. Le reste, la suite a été perdue. Les Byzantins s'en fichaient éperdument. Ça ne les intéressait pas. Et je pense que si elle a été sauvée, c'est parce que ce qui a intéressé le patriarcat orthodoxe, c'est la condition des femmes. C'est parce qu'elles revendiquent le droit, en tant que femmes, de ne pas être obligées de se marier et de pouvoir rester vierge. Évidemment, dans le regard chrétien orthodoxe, ah, c'était formidable.
Oui, bien sûr, mais
donc, la problématique centrale, je pense, pour Byzance, c'est les femmes.
Oui.
C'est pas la couleur de leur peau. Et le texte est là-dessus, les compare, les suppliantes, à des Libyennes. La Libye, c'est l'Afrique du Nord. Des Égyptiennes et des Chypriotes. Les Chypriotes sont pas noires. Et elles sont habillées de façon orientale. Donc, qu'ont-ils vu? Et Eschyle pensait à quoi? Absolument pas à des femmes venant de l'Afrique subsaharienne. Sinon, comme tous les Grecs, il aurait dit des Éthiopiennes. Par ailleurs, la pièce a été jouée dans un contexte mythologique très important, qui a été analysé, ce contexte mythologique, par Pierre Vidal-Naquet. C'est-à-dire que le noir, pour les Grecs, n'est pas seulement une couleur de peau, c'est une couleur morale. C'est-à-dire que les éphèbes, avant qu'ils deviennent adultes, sont envoyés à l'Eskatia, c'est-à-dire à la frontière entre Thèbes et Athènes. Ils sont dans le monde sauvage, ils ont un armement léger, ils pratiquent la ruse, la traîtrise. Ça peut même, chez les Spartiates, aller jusqu'au meurtre.
Oui, oui, oui.
Ils ne se marient pas. Or, les suppliantes ne se marient pas. C'est le chasseur noir, il chasse la nuit avec des filets, et à la fin, ils rentrent dans la cité, on leur coupe les cheveux, et à ce moment-là, eh bien, ils deviennent des blancs.
Ils deviennent des citoyens.
Des blonds. Le mythe oppose le noir et le blanc. Évidemment que le noir n'était pas africain. Ça veut dire que les Grecs qui regardaient la pièce.
Oui, mais est-ce que vous faites référence là? Oui, mais vous faites référence là à des rituels qui sont des rituels aussi d'apprentissage de la citoyenneté. Le passage par la frontière physique de la cité, mais aussi le passage à la frontière vers la sauvagerie qui permet de revenir et de devenir citoyen.
Absolument.
Donc là, il n'y a pas là d'éléments racistes.
Mais j'ai jamais dit que c'était raciste.
Non, mais bah, c'est ce que disent les militants, précisément.
Mais non, moi,
c'est
je là où les étudiants...
de la mise en scène, ils ne parlent pas de la pièce.
Alors, j'ai fait ce distinguo, c'est important. Je lis le communiqué du CRAN. Hein. Oui. Le spectacle est une propagande afrophobe, colonialiste et raciste.
Oui, mais quand nous parlons du spectacle, nous ne parlons pas de la pièce, nous parlons des choix de mise en scène. Mais
enfin, c'est des termes qui sont quand même...
Nous lisons le reste du communiqué de presse, nous disons très clairement, la pièce ne pose aucun problème. J'ai moi-même fait une thèse de théâtre sur le théâtre humaniste. Donc je n'ai rien contre le théâtre classique, bien au contraire. Nous n'avons aucun problème avec la pièce. Nous parlons uniquement, je l'ai dit dès le début, parce que l'introduction porte à confusion, nous parlons uniquement des choix de mise en scène de M. Brunet.
Mais les choix de mise en scène visent à reconstituer la mise en scène telle qu'elle existait. Alors là, on va se mettre à parler de quelque chose que nous n'avons
vu. C'est ce qu'il affirme. C'est un choix de mise en scène.
Voilà. Et par ailleurs, moi, je ne défends pas les militants qui ont empêché la pièce. Je vous ai dit non. Il fallait qu'elle soit visible. Ce que je défends, c'est qu'on ne pense jamais aux étudiants qui ont été indignés. Et est-ce qu'ils avaient la possibilité d'une indignation? Et est-ce que cette indignation, elle pouvait avoir un fondement légitime? Bien sûr que oui, évidemment. Évidemment que des étudiants ont le droit de s'indigner. En revanche, ceci aurait dû avoir lieu sur dans le mode apaisé du débat. Et s'il existait un média participatif à la Sorbonne du niveau d'une grande université internationale et d'excellence comme est la Sorbonne, eh bien, je pense qu'à ce moment-là, ce débat aurait eu lieu de façon apaisée et qu'on n'aurait pas eu tous ces débordements. Et donc, c'est pourquoi il m'a semblé qu'il manquait dans le message du doyen une partie disant, bon, ben, évidemment, maintenant, nous devons ouvrir un débat, faire un colloque.
Il faut dire que nous avons proposé d'ailleurs qu'il y ait ce débat.
Oui, je sais.
La Sorbonne l'a refusé.
Nous avons proposé un débat.
Quel était le thème du débat
sur ces questions, justement.
Sur lesquelles, exactement.
Sur les questions de blackface, de représentation, etc.
Il y a quand même des choses que je ne comprends pas.
M. Brunet, il n'est pas venu, c'est son choix. Les étudiants l'ont interpellé depuis un an. Il a refusé, c'est son choix. Le Monde lui a proposé un interview croisé avec moi, il a refusé, c'est son droit.
Oui, parce qu'il considère que ces acteurs et ces actrices ont été agressés physiquement et empêchés de jouer.
Parce qu'il le dit, mais c'est faux, nous n'étions pas là.
Mais en tout cas, vous voulez un débat sur le blackface à partir d'une mise en scène qui, d'après ce qu'on comprend, n'a rien à voir avec le blackface, on est bien d'accord.
Mais moi, je ne demande pas un débat uniquement sur le blackface. Je demande un débat sur le texte d'Eschyle qui est un enjeu contemporain, depuis 1980 et la mise en scène de la Schaubühne de Berlin, ce que j'ai dit sur les Euménides, parce que Eschyle a cette particularité qu'il pose des questions éminemment contemporaines. On a posé la question de la Shoah avec les Euménides parce que dans les Euménides, pourquoi Oreste est-il acquitté par le jury d'Athènes? Parce qu'il a obéi à Zeus et que donc il a assassiné sa mère sur ordre de Zeus. Il n'a fait qu'exécuter. Évidemment que pour les Allemands, c'est inacceptable.
Isabelle Barbéry, est-ce que quelqu'un peut revenir sur Terre? Parce que si les Euménides préfigurent la Shoah,
Après, la difficulté, je pense, c'est tout le monde en même temps. Oui, c'est-à-dire que aussi aujourd'hui dans le monde du spectacle et de l'art, on a beaucoup d'interprétations de classiques ou d'œuvres qui plaquent comme ça des lectures qui vont être extrêmement simplistes, des effets que je regrette, hein, de nazification en réutilisant ces thématiques sans grande précaution. Et voilà, je pense que peut-être aussi une des raisons pour lesquelles Philippe Brunet comme ça se retrouve un peu cloué au pilori et voué aux gémonies, c'est qu'il essaye, j'ai l'impression, d'avoir une position un peu subtile. Il a mis un masque sur du maquillage. La peau est comme vous l'avez dit dans la présentation, elle n'est pas noire, elle est foncée. Quand on regarde les photos très clairement, il y a quelque chose qui est bavé sur le corps. Enfin, tous les signes d'une forme de complexité, de précaution sont présents. Donc, juste par rapport aux histoires de colloques, parce que là, on a l'air de dire qu'il n'y a aucun colloque sur les questions de race, etc., dans les universités. Il faut quand même rappeler que c'est non seulement très présent, mais que c'est tellement présent que je pense que c'est une aussi un des facteurs d'emballement à la fois médiatique, enfin la racialisation dans laquelle on vit, anthropologique dans laquelle on vit, ce retour des thématiques raciales est un facteur d'explication de l'emballement là dans lequel on se trouve pris. Voilà.
Moi, je voudrais... Tania de Montaigne.
Oui, deux choses. Je pense que effectivement, de vouloir absolument plaquer des choses qui relèvent ou des concepts qui sont d'aujourd'hui et de vouloir absolument faire une lecture d'hier avec ces concepts-là, c'est toujours un peu particulier. Et par ailleurs, en fait, pour ce sujet-là, comme beaucoup d'autres, en fait, ça part toujours d'un vrai sujet. C'est-à-dire, le vrai sujet, peut-être, c'est que la troupe de Philippe Brunet, que je ne connais pas, je rappelle, hein, car je n'ai pas vu son spectacle, mais peut-être que cette troupe n'est absolument pas mélangée. Et en général, quand les problèmes se posent, c'est toujours autour de ça. C'est-à-dire, la vraie question, c'est celle de comment on fait pour qu'il y ait tous sur un plateau, voilà, en l'occurrence pour le théâtre ou dans les entreprises, ou voilà, c'est la question qui nous est posée vraiment fortement. C'est ça la question du racisme, de la même façon que se pose la question du sexisme, qui est comment on fait pour qu'il y ait tout le monde à un endroit. Très bien, donc ça c'est la question de départ. Et en fait, le glissement, c'est-à-dire il y a cette question-là qui se pose, et donc en fait c'est comme si on était tenu de répondre en périphérie. C'est ce qui se passe par exemple aux États-Unis, où on voit bien que bon, on continue à tuer un noir tous les deux jours, on a élu Trump, il y a plus de services sociaux dans les endroits les plus pauvres, pas de services publics, voilà. Et donc la réponse à ça, qui est donc le vrai problème, ça va être de sanctuariser des endroits, d'être très vigilant sur la question de l'appropriation culturelle, de dire je ne t'appellerai plus comme ça, je t'appellerai comme ça, de dire si tu es un blanc, tu peux dessiner des noirs joyeux, mais pas des noirs qui souffrent, parce que là, c'est de l'appropriation culturelle. Donc, on voit bien qu'on est toujours dans un glissement et que le vrai sujet qui nous intéresse, à savoir celui-là, et je pense que peut-être c'est là que ça se pose, c'est-à-dire cette troupe, elle est peut-être totalement monocolore et peut-être que c'est là, en fait, la vraie question qu'il faudrait poser. Et peut-être que pour les moments à venir, c'est très bien que Philippe Brunet fasse ce qu'il a envie de faire comme mise en scène d'Echille ou de quelqu'un d'autre, et que peut-être il y ait d'autres gens qui fassent d'autres mises en scène. Et c'est ça, en fait, là, le vrai sujet, c'est comment on fait pour qu'on amène tout un tas d'autres personnes. Et donc, je pense que, en fait, là, c'est des réponses périphériques, comme d'habitude. C'est-à-dire, on va s'attaquer à cette histoire de masque ou de peinture, mais parce que, en fait, le vrai sujet à saisir, il échappe.
C'est fort possible, parce qu'il y a vraiment deux sujets très différents. Il y a ce que vous dites, Tania de Montaigne, qui est la présence ou non de mélange au sein de la troupe. Et puis, il y a la question du théâtre, comme dit Philippe Brunet, comme lieu de métamorphose et de mélange en soi, indépendamment des origines de la troupe.
Bien sûr.
Et ça, je pense que dans ce qu'on peut voir des photos de cette fameuse mise en scène invisible, on se rend bien compte que les Danaïdes montrent quelque chose de l'altérité voulue et non pas de la racialisation, ce qui est une question tout à fait différente. Et il me semble que dans vos approches, l'un et l'autre, Louis-Georges Tin et Georges Sideris, il y a le plaquage sur une démarche artistique de catégories qui ne sont que historiques et politiques. Alors c'est particulièrement vrai de vous, Georges Sideris, je vais y revenir dans un instant, parce que les hominidés de la Shoah, moi, ça m'hallucine.
Hein,
mais enfin, oui, Louis-Georges Tin.
Je vais vous donner un exemple. Imaginez une pièce qui parle de la forêt et des bûcherons. Un metteur en scène décide de faire une affiche, et sur l'affiche, il met une hache. Et on lui dit, au fait, cette hache que vous avez choisie, c'est une francisque. Vous n'avez pas fait attention, peut-être, mais c'est une francisque, c'est pas n'importe quelle hache. Il dit, ah bon, je ne savais pas, c'était pas mon intention. Oui, je ne voulais pas faire la promotion de Pétain, mais d'ailleurs, c'est pas le sujet de la pièce. On lui dit, du coup, vous pourriez peut-être changer l'affiche. Il dit, non, c'est très joli comme hache, je la garde. Cela provoquerait évidemment un sentiment de malaise. Si depuis un an, on lui explique que c'est embêtant, même si c'est pas le sujet de la pièce, s'il continue, c'est gênant. C'est un peu la même chose qui se passe pour M. Brunet. Ça fait un an qu'on lui explique que certes, ce n'était pas son intention, et je le crois très volontiers. Mais c'est pour ça que je dis que l'erreur est humaine, la persévérance est diabolique.
Pour apporter un bémol, Brunet lui-même dit qu'il a proposé de jouer la pièce devant les étudiants qui voulaient l'empêcher et qu'ils ont refusé. Donc ils n'ont pas voulu avoir un avis, en fait.
Alors moi, ce que je dis, c'est que le masque me paraît tout à fait logique. Il est conforme à la tradition grecque. Et je fais une distinction très claire entre le masque, qui est une tradition théâtrale, et le maquillage en noir, qui est une tradition raciale. Ce n'est pas du tout les mêmes traditions. Et cela commence, je l'ai dit, au XVIIe siècle en Europe, et c'est ensuite que ça a voyagé vers les États-Unis et que ça nous revient avec ce mot anglais. C'est pour ça que je préfère dire, vous avez raison, Madame Barberis, autant parler de déguisements raciaux, d'autant que la question n'est pas uniquement le déguisement en noir. Il y a eu, il y a 15 jours, en Belgique, un carnaval où les gens se déguisaient en noir et en juif.
Oui, je sais.
Cela a été condamné à juste titre par la Commission européenne. Ce sont les mêmes pratiques, ce sont parfois les mêmes personnes. Et donc, c'est dans ce même contexte qu'aux États-Unis et en Europe, ces déguisements ont commencé. Il y en a aujourd'hui à Dunkerque, le bal des Noirs. Il y en a à Nantes. Il y en a en Belgique, c'est les Noirots. Il y en a aux Pays-Bas, c'est Black Pete. L'ONU a condamné cela. Le défenseur des droits en France a condamné cela. Le Parlement européen a adopté une recommandation exactement le même jour que la représentation de la Sorbonne ou la non-représentation. Eh bien, le Parlement européen, dans l'un de ses articles, condamne cela. Donc, vous voyez, c'est un mouvement, un ensemble international, parce que ce sont des pratiques, des problématiques internationales.
Mais est-ce qu'il faut vraiment, alors je vais pousser la logique jusqu'au bout, est-ce qu'il faut vraiment condamner ces pratiques? Et je vais vous dire pourquoi je pose la question, parce que il me semble qu'il y a dans l'appréhension de l'altérité dès le XVIIe siècle, en fait, il y a un élément qui ressort, qui trouvera sa traduction aux États-Unis sous la culture de la foire, de freaks, des choses comme ça. Le film de Jordan Peele dont on a parlé la semaine dernière fait explicitement référence à ça. Est-ce que on peut éliminer l'ambiguïté qu'il y a dans l'appréhension de l'altérité, même quand c'est une altérité qui joue avec les limites, qui joue, comme les Grecs dont on parlait tout à l'heure, avec la frontière et avec l'altérité absolue?
Au fond, la question que vous posez, c'est de la liberté d'expression.
Non, pas seulement.
En tout cas, moi, je revendique cette liberté d'expression. Et je dis, l'artiste, pourquoi pas, a le droit d'utiliser justement ces déguisements raciaux. Mais moi aussi, en tant que spectateur et en tant que défenseur des droits humains, j'ai le droit de dire que je n'irai pas, que j'invite ceux qui me suivent à ne pas y aller.
Bien entendu.
C'est cela le boycott. Donc, car souvent, on a une version un peu unilatérale de la liberté d'expression. On parle de la liberté d'expression de l'artiste. Mais moi aussi, j'ai ma liberté d'expression.
Mais bien sûr.
Donc, c'est pour cela que nous qui avons appelé au boycott et non pas à l'interdiction, nous sommes dans notre droit tout autant que
bien sûr, Louis-Georges. Mais le problème, mais bien entendu, vous êtes tout à fait dans votre droit d'appeler. Oui, non, mais ça tombe sous le sens. Mais simplement, votre communiqué, le communiqué que vous avez publié après la censure de la pièce, donne quand même le sentiment de soutenir la censure de la pièce, puisque vous allez jusqu'à... Vous n'attaquez que la pièce, en réalité,
la mise en scène. Je l'ai dit plusieurs fois, nous l'avons dit dans la presse, c'est pas la pièce d'Eschyle, c'est la représentation de M. Brunet.
Non, mais c'est ça que je veux dire. Vous n'attaquez que la représentation. Vous ne dites
pas... Oui, bien sûr,
vous n'avez pas, vous n'avez, je n'ai pas lu de mots de vous critiquant l'action des étudiants.
Est-ce que je critique? En tout cas, je n'y étais pas, je n'y ai pas participé. Donc, quand M. Brunet dit que nous avons séquestré des étudiants à lui, je dis, mais le CRAN n'était pas là, il n'y avait pas un membre du CRAN. Donc là, on est dans l'erreur, la fausseté, alors que tous les noirs se ressemblent, mais je n'y étais pas.
Vous n'avez pas de mots pour critiquer le fait que cette pièce a été
interdite. S'il y a eu séquestration, je ne peux que le condamner. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait une plainte, une preuve. Je ne sais pas si c'est vrai. S'il y a une séquestration, je ne peux que le condamner.
On va voir
s'il y
a... Moi, je dirais, pourquoi tant d'émotions? Parce que c'est quand même incroyable ce à quoi on assiste. Une question que je pose, c'est pourquoi une action aussi violente que je condamne, je crois que j'ai été très clair dans mon article, je condamne cette action violente, je suis pour la liberté de création et pour qu'on puisse voir. Parce que les Grecs en voient à l'origine, parce que nous sommes un public contemporain, et que pour le public contemporain, ici en Occident, en France, avec notre culture gréco-latine, les Grecs nous interpellent dans notre origine même, c'est-à-dire que nous y voyons l'origine dans une civilisation qui se vit dans des racines gréco-latines.
Mais pardon.
Et c'est, excusez-moi, oui, je voudrais précisément, c'est la question qu'a posé Peter Stein en 80 avec les Euménides. Pourquoi, si nous justifions l'acquittement d'un matricide parce qu'un ordre a été donné, mais alors parce que la Grèce Griechenland, c'est notre origine. À partir de là, nous légitimons la Suisse. La suite, je ne dis pas que je suis d'accord avec Peter Stein, mais je dis qu'il a posé un problème fondamental qui a irrigué tout le théâtre contemporain, qui a interpellé la mise en scène française. C'est-à-dire qu'il a posé de son point de vue pour des spectateurs de notre époque qui sont effectivement les héritiers de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de l'époque moderne, et pour les Allemands, évidemment, de l'enjeu du nazisme. Comme l'a dit Peter Stein, si effectivement on libère au reste, eh bien à ce moment-là, que deviennent les millions de juifs assassinés?
Oui, mais moi je ne crois pas, parce qu'en fait là, ce serait dire que chaque pièce est totale et que l'art doit répondre totalement à toutes les questionnements et toutes les interrogations existentielles de l'homme. Or, ce qu'il faut admettre, c'est que chaque œuvre parle pour elle-même. Et donc, elle va rencontrer des gens en face, c'est le principe de l'art, et que donc se produit quelque chose, il n'y a pas de réponse totale et qui vont éclairer l'ensemble de nos vies. Non, il y a un temps, avec une proposition d'un Oreste qui fait à ce moment-là ce choix-là. Si le metteur en scène, en revanche, lui, d'un coup décide que son regard se pose là-dessus de telle sorte qu'il vient nous chercher sur notre interrogation de ce que c'est que juger quelqu'un et de la responsabilité d'une personne, ce sera le regard du metteur en scène. Mais on ne peut pas demander à l'art. Alors en même temps, ça dit à quel point nous avons une attente à l'égard de l'art, parce que nous, chaque œuvre maintenant qui est posée doit être parfaite et doit répondre à l'ensemble des questions qui se posent à nous. Mais en fait, non, il faut admettre qu'il y a une proposition et qu'après, comment elle va être lue, en dehors des questions qui seraient de dire, bah, tiens, cette œuvre, d'un point de vue légal, elle est raciste ou elle est antisémite ou elle est homophobe. Mais à partir de là, une fois que ça, cette question est réglée, on est obligé d'accepter qu'on est face à une œuvre et puis qu'il y a quelque chose qui se joue à ce moment-là entre l'œuvre et nous.
D'autant que dans le cas des Séménides, vous pouvez très bien faire une toute autre interprétation et dire qu'en fait, Oreste se débarrasse d'une tyrannie et que pour éviter que le résistant qui a débarrassé la cité d'une tyrannie soit lui-même victime des conséquences de ses actes, les dieux interviennent pour rétablir la justice et la démocratie. On peut dire absolument une chose et son contraire.
Non, mais je ne dis pas qu'il y a une totalité. Je dis que c'est une proposition.
Mais c'est une proposition.
C'est
une proposition totalement anachronique qui consiste à placer des catégories des souvenirs traumatiques du présent sur une pièce d'il y a 3000 ou 4000 ans.
Mais Chil pose des problèmes contemporains, ça n'a rien d'anachronique.
Et c'est une proposition qui a un certain nombre d'années, mais qui aujourd'hui...
Isabelle Barberis.
Aujourd'hui, ce type de lecture, il y a des phénomènes de récurrence esthétique très fort dans les arts contemporains, donc la racialisation des esthétiques en est une, mais le fait de lire de manière obsessionnelle n'importe quelle thématique à travers la grille de lecture nazie et de rendre manichéen les choses en fait partie aussi, fait partie d'un langage. Donc voilà, je comprends que
Est-ce que c'est d'ailleurs, que c'est pour aller un peu dans votre sens, Isabelle Barberis, est-ce que c'est pour une lecture nazie ou est-ce que c'est lire les œuvres à travers une catégorie de victimaire, de victimisation systématique? C'est-à-dire que finalement, les interrogations que vous posez l'un et l'autre, Louis-Georges Tain et Georges Sidéris, à propos des Euménides ou à propos de la mise en scène de Philippe Brunet, ça consiste à dire, voilà, il y a des gens qui voient ça, qui voient ce spectacle à partir de leur traumatisme personnel ou historique, et donc il faut faire attention à eux, et donc il faut reprendre, éventuellement changer la fin des Euménides, et éventuellement faire attention à la manière dont on présente l'autre. Il ne faut pas le présenter sous des dehors trop sauvages ou trop discutables.
Comme je l'ai dit,
Louis-Georges Tain,
la liberté d'expression de M. Brunet n'est pas en cause, mais la mienne non plus. Et surtout quand on parle de littérature, a fortiori de théâtre, a fortiori de mise en scène, l'esthétique de la réception est quelque chose d'important. C'est-à-dire, on ne peut pas dire « je fais mon travail d'artiste dans mon coin, après je m'en fiche de ce que les œuvres peuvent dire ou ce que les gens peuvent penser ». Il y a une interaction, c'est ce qu'on appelle l'esthétique de la réception, l'école de Constance, vous la connaissez sans doute, et donc il est libre de faire ce qu'il veut, mais le public est libre aussi d'investir le spectacle, justement, de ce qu'il veut. Monsieur Brunet se prétend antiraciste. Se prétendre antiraciste tout en refusant, il a le droit de le dire, mais tout en refusant le dialogue avec les Africains qu'il prétend défendre.
Mais enfin, où voyez-vous un dialogue?
Mais justement, il n'y a pas de dialogue.
Bah non,
ça fait un an qu'il est interpellé par les étudiants.
Mais enfin, il est interpellé sur un spectacle que ces étudiants-là même n'ont pas vu.
Si, ils l'ont vu, c'est ce que je vous explique tout à l'heure. Les étudiants de la Sorbonne l'ont vu l'année dernière.
Des photos.
Et ça fait un an, ils ont pris des photos pendant le spectacle. Et donc, ils ont essayé, après ça, il y a eu un malaise. Ils ont été nombreux à essayer de discuter avec lui. Il a toujours refusé. C'est son droit de refuser. Mais on ne peut pas dire, j'ai une part d'africanité, tout en disant, je refuse le dialogue avec les étudiants africains de la Sorbonne.
Oui, alors après, il peut ne pas vouloir parler avec ces gens-là, et pour autant, il ne faut pas confondre des étudiants africains avec l'idée qu'ils voudraient parler à aucun noir. Parce
non, mais il y a un moment,
comme il a
refusé de discuter avec tous les interlocuteurs sur le sujet, il y a un moment, on se dit, c'est son droit. Personne n'est obligé de dialoguer. Mais après, se prévaloir, si vous voulez, d'une part d'africanité, de l'antiracisme, sortir des diplômes, etc.
Vous ne pensez pas que dans votre communiqué, vous auriez tout de même pu condamner les étudiants les violences et les étudiants qui ont
Je l'ai dit plusieurs fois, y compris ici tout à l'heure. Si violence il a eu, car on ne sait toujours pas ce qui s'est dit, parce que il n'y a pas eu de confrontation. J'ai pas les deux versions. C'est pour ça que je dis s'il y a eu séquestration, à ce moment-là, je ne peux que les condamner. Je l'ai dit plusieurs fois, je le redis très à l'aise. Je dis simplement, la représentation n'a pas eu lieu. Pourquoi, comment, on verra. En tout cas, la liberté d'expression de M. Brunet doit être respectée, la nôtre aussi. Et ce monsieur refuse le dialogue, ce qui ne me paraît pas être la meilleure démarche quand on veut être antiraciste.
Oui, monsieur. Ce sera la fin. Voilà, des spectacles classe, genre, race et antiraciste, il y a... C'est à peu près la majorité de ce qui se produit aujourd'hui dans le spectacle vivant. Le problème étant peut-être que lorsque l'on avance avec des bonnes intentions antiracistes, comme l'a fait monsieur Brunet, ce que je ne lui reproche pas, on trouve toujours en face de soi encore mieux intentionné, encore plus antiraciste que soi. C'est ce que j'appelle, moi, la guerre des consensuels. Il y a encore quelques années, la guerre des bonnes intentions. Il y a encore quelques années, l'art qui était provocateur, ne jouait pas du tout sur cette corde moralisatrice. Lorsque Friedrich Dürrenmatt fait scandale pour une pièce qu'il serait absolument impossible de monter aujourd'hui, qui s'appelle Fou de Dieu, ce scandale il a en face de lui effectivement des moralisateurs, des gens qui lui disent qu'il sort des cadres moraux. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui se reproduit, c'est au nom des bonnes mœurs et au nom de ce qu'il faut penser, au nom des bonnes intentions, qu'on fait un procès à Monsieur Brunet. Voilà.
On va devoir arrêter l'émission ici, je suis désolé, mais le temps qui nous était alloué, qui nous était imparti, est achevé, comme on dit. Je voudrais finir par un hommage, sinon à Philippe Brunet, en tout cas à la tragédie grecque, puisqu'on ne peut pas voir le spectacle, on va quand même entendre un petit peu une référence à la Grèce avec Angélique Yannatos et son disque.
Amen.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Nathalie Dempereur, avec à la technique Nasser Moussaoui et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière.
Ο μαύρος